l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Aurignac, 94.1.
Et à 12h, passé d'une petite minute, comme tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, il est temps de rejoindre les studios de Lourdes où nous avons, nous, l'équipe de Radio Présence Lourdes-Pyrénées, la immense joie de partager avec vous cette heure passée ensemble. C'est le Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec au sommaire de ce moment. Dans quelques instants, nous allons partir du côté de Galance et dans le nord du département des Hautes-Pyrénées. Ce sera le lieu où nous rejoindrons Benoît Guillard pour sa chronique verte. Puis nous parlerons littérature avec le frère Martin qui est responsable de la bibliothèque de l'abbaye de Tournai. Voilà, je vais y arriver, pardon. Nous parlerons d'un livre écrit par Marie Drucker sur les événements qui se sont déroulés il y a 2 ans en Israël. Nous aurons également les informations régionales et puis nous parlerons solidarité avec Anne Deslois. Et enfin, l'auteur du jour dans la chronique littéraire de Catherine Albrecht, ce sera Georges Sand. Voilà le programme de cette heure que nous allons passer ensemble. Je vous propose de le débuter avec les titres des informations de ce jour qui nous sont présentés par Éric Leclerc.
Ce 17 octobre est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Selon l'INSEE, l'Occitanie est l'une des régions de France métropolitaine les plus pauvres. Le taux de pauvreté atteignait 17,5% en 2021. Les minima sociaux couvrent une part de la population plus importante qu'en France métropolitaine. Les départements du littoral sont plus fragiles. 393 100 personnes habitaient en 2020 dans l'un des 108 quartiers prioritaires de la politique de la ville, soit 7% de la population de la région. La fac du Mirail à Toulouse en grève hier. Une partie des professeurs et du personnel étaient mobilisés contre les coupes budgétaires et l'austérité. Dans leur mouvement, ils ont été rejoints par les étudiants sans blocage de la fac. Le 21 octobre, les personnels, enseignants et étudiants se réuniront devant le rectorat. La préfecture de Haute-Garonne organise une enquête publique sur le projet de plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération toulousaine. Elle a lieu jusqu'au 25 novembre. Ce plan est un document de planification qui contribue à améliorer la qualité de l'air sur le territoire. Enjeu majeur de santé publique. Le dossier d'enquête publique est consultable sur democratie-active.fr/ppa-aglo-toulouse.
Voilà pour les titres de ces informations. Nous vous retrouvons, mon cher Éric Leclerc, à 12h30 pour développer tous ces titres et d'autres.
Présence dans le Lauragais, 97.9.
Benoît Guillard, dans sa chronique verte, nous amène dans les Hautes-Pyrénées, du côté de Galan.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous trouvons cette semaine à nouveau pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, je suis exactement à Galan, à l'est du département, au nord de Lannemezan ou au sud de Castelnau-Magnoac. Et je suis à Galan avec un groupe donc CMR, Chrétien Monde Rural, une équipe CMR qui est une équipe de personnes qui sont investies dans le travail de la santé, médico-social et hôpital, et qui réfléchissent un petit peu sur cette difficulté du travail, de vivre dans le rural aussi, et puis la difficulté aussi, ce qu'est le monde de la santé et du soin actuellement, avec notamment depuis la crise Covid. Donc je trouvais ça très intéressant de pouvoir vous les faire rencontrer et les faire témoigner, puisqu'ils ont fait le choix, ou elles ont fait le choix plutôt, de préparer un questionnaire qui était destiné au personnel soignant qui ont fait le choix de travailler en rural. Là, le personnel, on était essentiellement sur le secteur de Trie-sur-Baïse, Bonnefonds, Montastruc et Lannemezan, donc tout autour de Galan. Et ce questionnaire visait à comprendre leur motivation à vivre dans le rural, leurs expériences et les défis rencontrés. Donc voilà, donc pour décrire un petit peu la scène, je suis avec donc Geneviève, Régine, Nadège, et avec une autre Geneviève qui font partie du groupe CMR de Galan et qui, pour la plupart d'entre elles, travaillent soit dans les établissements médico-sociaux de Bonnefonds, Montastruc, soit à l'hôpital de psy de Lannemezan. Bonjour mesdames, et merci d'avoir accepté de m'inviter, de répondre à ces questions, et peut-être aussi de partager un petit peu votre regard et votre expérience avec nos auditeurs autour des difficultés du monde du soin et des soignants en milieu rural. Alors je vais me permettre ces quelques questions, puisque c'était les questions que vous avez fait parcourir à vos collègues. Et en particulier, voir un petit peu qu'est-ce qui fait que aujourd'hui un professionnel soignant fait le choix de travailler en milieu rural. Je vais peut-être commencer par vous, Geneviève.
Bien, je pense que les professionnels, en particulier, recherchent la paix, l'environnement, toute la nature qui va avec, et puis la proximité avec les habitants du village aussi. Voilà, il y a beaucoup de rencontres, d'échanges avec les résidents et nous-mêmes, quoi, professionnels.
Donc, il y a aussi l'opportunité professionnelle, donc, dans le contexte des gens. Si je trouve un poste, si j'ai un poste, notamment dans le secteur psy, j'ai cru comprendre, si j'ai un poste à l'hôpital de Lannemezan, des hôpitaux psy, il n'y en a pas 50 000, c'est l'opportunité de prendre ce poste, ou alors c'est la proximité aussi avec la famille, ou c'est encore l'attrait pour le rural. Et alors, par rapport à justement ce travail en rural, je vais peut-être me tourner vers vous, Régine. Comment vous, dans ce questionnaire, vous avez restitué un petit peu les avantages que les gens trouvaient à travailler dans le rural tout en étant dans le monde du soin et de la santé ?
Eh bien, les avantages, c'est que on peut proposer des formations continues, des financements, des études pour le logement, le financier. Ça, ce sont les avantages après une satisfaction de vie de ce métier.
Oui, donc finalement, il y a quand même des atouts. Les gens qui viennent travailler dans le rural tout en étant dans ce monde ont trouvé un petit peu un attrait, et a trouvé un petit peu un attrait à vivre dans ce rural. C'est votre cas à toutes, ici, a priori. Et donc ça, c'est intéressant peut-être de le partager, c'est se dire que finalement, on se dit les déserts médicaux un peu partout en France, c'est quand même un des drames de la France. Et pour autant, si les gens étaient amenés à rencontrer le rural et à connaître le rural, peut-être que finalement, ils trouveraient aussi des atouts. Et donc ferait le choix au final de venir travailler dans ces secteurs. Donc c'est aussi encourageant un petit peu de vous entendre sur cette question. Mais il y a aussi des difficultés et sans doute des défis à relever quand on vient dans le rural, dans ce contexte. J'ai lu dans votre questionnaire, dans les réponses que vous portiez, parce que moi je l'ai sous les yeux, qu'effectivement dans les difficultés vous situez un certain nombre de difficultés comme l'isolement géographique ou l'isolement professionnel, mais aussi d'autres difficultés qui me surprennent plus, mais qui m'intéressent, ils m'interpellent, parce que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, c'est donc la charge de travail élevée. Et là, je vais peut-être vous laisser témoigner là-dessus.
Beaucoup de travail, pas forcément beaucoup d'infirmiers ou d'AMP, voilà, le personnel qui manque souvent. Donc, il faut travailler, faire le même travail en étant moins, donc ça entraîne des difficultés, dont les gens saturent aussi, les difficultés aussi au travail, les burn-out et compagnie. Voilà, et puis l'accès est limité aussi beaucoup de... Il manque de médecins, on le sait très bien, le désert géographique, les médecins qui partent à la retraite qui ne sont pas forcément remplacés, ou dans les hôpitaux, les médecins qui viennent des grands hôpitaux de Toulouse et tout ça, mais qui ne sont pas là tout le temps. C'est aussi des difficultés supplémentaires pour la ruralité.
Pour autant, vous vous dites, quand on parcourt ce questionnaire, vous dites pour autant quand même qu'aujourd'hui, pour la plupart des professionnels de la santé que vous avez rencontrés autour de ce questionnaire, la plupart ne regrettent pas leur choix. Ils sont plutôt satisfaits, voire très satisfaits de ce choix de vie en rural. Et même, ils vont plus loin puisqu'ils disent qu'ils recommanderaient même à leurs collègues de travail de venir travailler dans le rural. Ce qui peut surprendre finalement, hein, par rapport au sujet que l'on pressent aujourd'hui autour des aires médicaux. Et donc, c'est votre cas. Et donc, on sent bien qu'il y a quand même une vraie motivation à rester dans le rural. Et vous le dites dans ce questionnaire. Et donc, en particulier, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui motive le personnel de soins à rester dans le rural? Là, je vous interroge toutes les trois individuellement, j'en profite puisque je vous ai là. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à rester dans ce rural?
J'habitais à 5 km, donc ça a été ma première motivation. Hein. Voilà, c'est ça. D'accord. En ayant des enfants, et voilà. Et j'étais relativement dans un confort, quoi, quelque part. Hein. Voilà.
Et aussi peut-être l'opportunité d'un emploi dans un territoire où il n'y a pas d'entreprise, pas de grosses entreprises.
Oui, l'ADAPI, quand même, dans le coin, c'était recruté énormément. Hein, voilà. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres opportunités. Mmh. Voilà.
Et vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté ici, sur ce territoire, à travailler dans le médico-social?
Le travail, l'opportunité d'avoir du travail, et aussi les avantages aussi, c'est vivre à notre rythme de vie, un rythme. On trouve le rythme avec la nature, le sport et tout ça, et la paix.
D'accord. Alors, mais puisque j'ai aussi une infirmière du secteur psy de Lannemezan, peut-être que le regard est un petit peu différent. Donc, je vais lui poser la même question. Qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce qui vous fait rester dans ce territoire?
Après, c'est sûr, moi, c'est la ruralité aussi. Ayant vécu toute ma vie en milieu rural, l'accès aussi au sport. Beaucoup sont restés ici dans mes collègues pour le sport, les équipes sportives du coin rural, le rugby notamment. Après, c'est aussi le secteur psychiatrique où il n'y a pas forcément... Moi, particulièrement, j'avais un attrait pour cette spécialité. Bon, il n'y a pas beaucoup d'offres sur le territoire, donc c'était aussi une opportunité de travailler à proximité, en milieu rural et en psychiatrie. Voilà, donc c'est pour cette raison que j'ai choisi Lannemezan, de rester à la campagne, hein. Voilà, en milieu rural.
Alors, j'ai trouvé aussi une question très intéressante dans votre questionnaire, qui était la suivante, qui était de dire quelles sont pour vous les mesures incitatives qui pourraient renforcer l'attractivité des zones rurales pour les professionnels de la santé. Et vous avez répondu, enfin plutôt vos collègues ont répondu à une grande majorité, la formation, également la participation aux frais de transport, puisque c'est vrai que vivant dans le rural, se rendre au travail, ça peut coûter plus cher, hein, que quand on est en ville avec des transports en commun. Et beaucoup ont cité aussi, notamment les jeunes, une aide financière pour les études. Hein, et donc ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui, les jeunes que vous côtoyez dans le secteur du médico-social ou dans le secteur de l'hôpital, sont des jeunes qui viennent et qui se forment, qui continuent à se former.
Et ça motiverait aussi, notamment pour les étudiants infirmiers, les motiver après à avoir un poste d'infirmier à la fin de leur formation. Et s'ils avaient les études de payer, c'est vrai que ça aide déjà financièrement pour leurs parents et pour eux. Et après, ça motive aussi pour de rester après à l'hôpital qui les a formés, qui leur a payé les études. Et les aider aussi peut-être au logement, les aider à trouver un logement. Voilà, milieu rural aussi, c'est pas négligeable. Tout ça, c'est des petites choses dont il faudrait donner un coup de pouce pour les jeunes qui arrivent, qui trouvent leur satisfaction de travailler en milieu rural et voilà, rester pouvoir travailler dans un milieu quand même agréable avec des pouvoir faire leur vie à côté, des activités tout ça, et voilà, rester en milieu rural, c'est toujours on leur met toujours ça, hein. Ouais.
En tout cas, ce qu'on perçoit à la conclusion de cette enquête, hein, du travail que vous avez réalisé auprès de vos collègues, c'est que globalement, les gens aiment ce qu'ils font et apprécient la vie en rural. Donc c'est intéressant de le faire savoir, effectivement vous avez raison, auprès des jeunes, auprès des gens qui sont dans les écoles, leur faire savoir qu'il y a des beaux témoignages autour des gens qui vivent dans le monde de la santé, du médico-social.
Des infirmiers, Bon, je parle de l'Almesan parce qu'on est bien. Avant, les infirmiers, souvent, étaient aussi agriculteurs à côté. Ils avaient cette seconde activité. Ils étaient autant infirmiers que paysans.
Oui, c'était des doubles actifs. Et tout comme beaucoup d'épouses d'agriculteurs aussi, puisqu'il y avait ce travail, ils avaient la possibilité de se former. Et ensuite d'intégrer donc des postes dans les établissements médico-sociaux en particulier, puisque sur les territoires ruraux, il y a eu beaucoup d'établissements médico-sociaux. Et c'était souvent des femmes d'agriculteurs, en fait, qui occupaient ces postes, parce que c'était une opportunité pour elles de travailler à côté, à proximité. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. En tout cas, merci infiniment pour ce beau travail, ce beau témoignage. J'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir ce dialogue avec vous et de faire rencontrer aussi votre secteur auprès des auditeurs de Radio Présence. Je parle, moi, du rural, je parle de l'écologie, je parle de la vie en rural, et je trouvais intéressant de souligner un petit peu à la fois la réflexion, le travail que vous portez dans le cadre de l'équipe CMR de Galant autour de justement ces déserts médicaux, et puis la motivation qu'ont les professionnels d'aujourd'hui à venir travailler dans le rural, et puis aussi de donner quelques perspectives pour les jeunes qui souhaiteraient venir travailler dans ce secteur. Merci infiniment, et puis au plaisir de vous retrouver. Merci. Au revoir. Merci,
Benoît. Voilà pour la chronique de Benoît Guillard, qui toutes les semaines nous permet de découvrir une action en faveur de notre belle terre. On se retrouve dans quelques instants avec le frère Martin de l'abbaye de Tournai, qui nous proposera un livre que nous allons découvrir dans quelques instants, juste après Jean-Jacques Goldman.
Certaines blessures au goût de victoire.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Le temps de la littérature est venu sur Présence, en ce Présence Midi. Nous sommes en compagnie du frère Martin de l'abbaye de Tournai dans les Hautes-Pyrénées. Il nous présente son livre de la semaine.
Bonjour frère Martin.
Bonjour Anne-Rose et bonjour chères auditrices et chers auditeurs.
Allez, avec vous aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un nouvel ouvrage. Nous allons parler du livre de Marie Drucker, une journaliste française bien connue, qui a écrit Nos cœurs déracinés. Ce livre a marqué ou marque l'anniversaire de l'attentat d'Israël, qui est, voilà, dont on a marqué les 2 ans il y a quelques jours. C'était le 7 octobre 2023. Qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous raconte de ce récit, la journaliste Marie Drucker?
C'est-à-dire, suite à cet événement, elle a vécu beaucoup de moments difficiles, puisque vous savez, beaucoup du coup de juifs ont été aussi attaqués, ont été en point de mire, et elle a dit que pour elle, il était important de prendre la parole et de dire, voilà, ce qu'elle ressentait, mais surtout comment elle se sentait en France et ce qu'elle a vécu dans son itinéraire depuis que ses grands-parents et arrière-grands-parents ont dû migrer déjà à cause de leur religion depuis leur pays respectif, depuis la Bukovine et d'autres, depuis la Pologne. Donc voilà, elle retrace cet itinéraire et à travers cet itinéraire, elle essaie, voilà, de placer, de nous faire prendre conscience, ben, de ce que ces personnes ont vécu, de ce qu'elles vivent aujourd'hui, de peut-être un angle pas tout à fait ajusté de l'attaque qu'il peut y avoir contre eux, ben parce que c'est pas eux qui sont le gouvernement israélien et à la fois ils sont touchés aussi parce que beaucoup de leurs compatriotes ont été massacrés le 7 octobre 2023. Donc à travers cet itinéraire qui est vraiment un récit très facile et très agréable à lire. Voilà.
C'est presque un récit autobiographique. Enfin, elle parle de l'histoire de sa famille, mais voilà. Elle s'appuie aussi sur les récits de d'autres personnes de la communauté juive.
Oui, mais surtout, elle dit, voilà, ce qu'elle ressent et ce que, voilà, l'attitude qui l'habite suite à ces événements. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est le magnifique parcours et comment on voit l'intégration de ces gens qui sont venus dans notre pays, qui ont appris notre culture, qui se sont investis, qui ont travaillé et qui ont vécu durement, voilà, la Seconde Guerre mondiale, puisque certaines de sa famille ont été déportées, ont été tuées, certains ont été sauvés, c'est intéressant, quoi.
On a l'impression que elle, parce qu'elle est journaliste, réalisatrice, productrice, eh bien, peut-être elle se sent un peu missionnée, ou en tous les cas, elle se dit qu'elle a la possibilité de s'exprimer sur ce sujet-là. Elle parle d'une tragédie qui suit la tragédie du 7 octobre.
Oui, elle nous aide à prendre conscience, voilà, qui sont les juifs, entre guillemets, aujourd'hui, et comment une religion, en fait, est un angle d'attaque, alors que elle souligne bien dans les livres, quand on est catholique, voilà, ben ça fait pas du tout pareil. Et elle est française, et finalement, elle est quand même attaquée pour sa religion. Donc voilà, ça invitera nos lecteurs, voilà, à nous poser des questions sur l'identité de chacun. Elle parle beaucoup de l'identité à travers le récit de la vie de ses ancêtres. Voilà.
Elle se livre un peu sur ce qu'elle a ressenti, elle, personnellement, enfin, face à des attaques qui ont pu la toucher dans sa vie personnelle.
Oui, elle en parle un peu, mais justement, elle veut pas en faire.
Pudeur, quand même.
Voilà, elle veut pas en faire l'objet du livre, oui. Mais elle raconte à travers ce qu'ont vécu les gens de sa famille, et puis en donnant quelques réactions sur le vif, voilà, qui sont les gens qui sont aujourd'hui parmi nous, et malgré nos origines, quelles que soient nos origines, j'allais dire, quelle que soit notre religion, ben voilà, nous sommes d'abord citoyens d'un pays, et qu'est-ce qui façonne d'abord une identité, quoi.
Donc, Nos cœurs déracinés, c'est le titre de son livre. Donc là, il évoque la situation de la communauté juive. Il pourrait coller ce titre, Nos cœurs déracinés, à d'autres communautés, de d'autres religions.
Ah oui, tout à fait, oui. Et ce qui est intéressant, c'est d'entendre, parce que il faut, nous, enfin, les gens qui ont vécu en France depuis longtemps, ils sont enracinés quelque part. Et eux, comme il y a eu tous ces mouvements dans la vie de ses ancêtres, voilà, c'est où peuvent-ils trouver un lieu où se poser, quoi. Et elle dit, vis-à-vis de certaines personnes, je ne peux pas remonter dans mes ascendants au-delà de mes arrière-grands-parents. Parce que, ben, y a des choses qui se perdent, quoi.
Pour autant, alors, elle ne fait pas une analyse politique ou géopolitique de la situation. Et ça, c'est quand même un sacré défi de pouvoir aborder cette question-là. Le 7 octobre 2023, c'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et pourtant, les conséquences, on est encore en train de les vivre. C'est une tragédie qui n'est pas terminée et qui se joue de part et d'autre, dans tous les camps. Elle n'analyse pas du tout ça. C'est pas que ça l'intéresse pas, mais c'est pas l'objectif de son ouvrage.
Voilà, elle montre comment l'identité juive aujourd'hui dans notre pays, ce qui pourrait s'appliquer à d'autres pays d'Europe et je pense ailleurs, voilà, comment faire attention entre ce que décide et ce que fait un gouvernement et quelques personnes dans ce gouvernement aujourd'hui en Israël, et puis les gens qui sont de cette religion et qui, de par le monde aujourd'hui et dans notre pays, là il y a déjà beaucoup de témoignages que l'on peut voir dans les médias, mais de gens qui ont été très durement attaqués et certaines personnalités publiques aujourd'hui, vous le savez comme moi, doivent avoir une protection rapprochée parce que ils ont reçu vraiment des menaces de mort de personnes extrémistes.
Déraciner, le mot est très très fort. Est-ce que pour un cœur déraciné, il y a quand même de l'espérance? Est-ce que dans son livre, on sent quand même un peu d'espérance ou est-ce que c'est une accumulation de souffrances passées et présentes?
Je ne sais pas si elle parle d'espérance, mais elle montre ce sur quoi elle s'appuie et les valeurs qui comptent pour elle. Et je pense qu'à partir de là, il y a un désir d'avancer, un désir de continuer à servir son pays, à travailler, à avoir une vie de famille, à vivre librement. Quoi. Je crois que c'est plus le thème de l'identité qu'elle aborde que être là ou pas là. Voilà. C'est l'identité qu'elle aborde.
Nos cœurs déracinés par la journaliste Marie Drucker. C'est paru aux éditions Grasset. Bien sûr, c'est un livre que nous trouvons dans la librairie, à la librairie de l'abbaye Notre-Dame de Tournai. C'est un ouvrage que vous nous recommandez chaudement, frère Martha.
Oui, tout à fait. Et puis, vraiment, c'est une lecture très, très fluide. C'est presque un peu comme un grand récit. Il y a des choses qui sont très puissantes, mais c'est vraiment sous la forme d'un grand récit. Et c'est un livre qui fait 154 pages. Et vous l'aurez pour 17,50 €.
Voilà, on sait tout. Merci beaucoup, frère Martin.
Merci à vous et à bientôt.
À bientôt.
Voilà pour cette proposition de lecture qui vous est faite toutes les semaines dans le Présence Midi. Cette chronique, vous pouvez la retrouver sur le site internet de la radio, radioprésence.com. Comme je ne saurais trop vous inciter à vous y rendre, on continue en musique, si vous le voulez bien, avec Zucchero Il Volo, avant de faire un point complet sur l'actualité de cette journée. À tout de suite.
Sorry.
Zucchero sur présence.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Il est 12h passé de presque 34 minutes à la pendule de Présence. Très très bon appétit. Si vous êtes à table, nous sommes en plein cœur du Présence Midi. Voici dans quelques instants la chronique solidaire qui va nous transporter à la découverte du CCFD. Juste après, le journal complet de la mi-journée en compagnie de Éric Leclerc.
Bonjour, ce 17 octobre est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Selon l'INSEE, l'Occitanie est une des régions de France métropolitaine les plus pauvres. Le taux de pauvreté atteignait 17,5% en 2021. Les minima sociaux couvrent une part de la population plus importante qu'en France métropolitaine. Les départements du littoral sont plus fragiles. 393 100 personnes habitaient en 2020 dans l'un des 108 quartiers prioritaires de la politique de la ville, soit 7% de la population de la région. La fac du Mirail à Toulouse en grève hier. Une partie des professeurs et du personnel étaient mobilisés contre les coupes budgétaires et l'austérité. Dans leur mouvement, ils ont été rejoints par des étudiants sans blocage de la fac. Le 21 octobre, les personnels, enseignants et étudiants se réuniront devant le rectorat. La préfecture de Haute-Garonne organise une enquête publique sur le projet de plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération toulousaine. Elle a lieu jusqu'au 25 novembre. Ce plan est un document de planification qui contribue à améliorer la qualité de l'air sur le territoire, enjeu majeur de santé publique. Il définit des objectifs à atteindre ainsi que les mesures pilotées par les acteurs locaux qui permettront d'abaisser les concentrations en polluants atmosphériques pour permettre à chacune et chacun de respirer un air plus sain. Pour l'agglomération toulousaine, ce plan se décline en 30 actions dans les domaines des transports, du résidentiel et du tertiaire, des activités économiques et inclut des mesures intersectorielles. Le dossier d'enquête publique est consultable sur democratie-active.fr/ppa-aglo-toulouse. À Toulouse, la future halle des mobilités située en Gare Matabiau obtient son permis de construire. Ce bâtiment de 12 400 m² sera dimensionné pour répondre au triplement de la fréquentation de la Gare Matabiau à l'horizon 2032, soit 150 000 voyageurs quotidiens. Il sera un véritable trait d'union entre les futures infrastructures de transport majeures de l'aire toulousaine, telles que la ligne à grande vitesse entre Toulouse et Bordeaux, le service express régional métropolitain, ainsi que la ligne C du métro. La 38e édition de Circa commence aujourd'hui. La capitale gersoise s'habille aux couleurs du cirque chaque automne pour accueillir à Auch et dans le Gers tout ce qui fait le cirque actuel. Artistes, professionnels, institutionnels, formateurs et élèves des écoles de cirque, élus de France, d'Europe et d'ailleurs. Véritable rendez-vous de tous les passionnés de cirque. Ce sont toutes ces composantes qui font la richesse et la singularité de Circa. Cette année, Circa accueillera un focus québécois avec deux spectacles dans le cadre d'un projet en collaboration avec la délégation générale du Québec à Paris.
Dans quelques instants, nous allons découvrir Georges Sand, un écrivain qui a écrit sur notre belle Occitanie. Ce sera en compagnie de Catherine Albrecht. Mais avant cela, je vous propose de retrouver la chronique solidaire de Anne Deslois en compagnie de son invité.
Bonjour à toutes et à tous. Je reçois aujourd'hui sur les ondes de Radio Présence Lourdes Monsieur Jean-François Guiraud. Jean-François, bonjour.
Bonjour Anne.
Alors Jean-François, vous avez été le directeur diocésain pour les pèlerinages du diocèse de Besançon, puis après vous êtes engagé comme acteur de la solidarité, alors à la fois dans le diocèse de Besançon avec le CCFD Terre Solidaire, et puis aussi comme acteur actif, vraiment très actif dans la solidarité, dans ce qui est proposé à l'espace rencontre du CCFD Terre Solidaire ici à Lourdes.
Absolument, et je suis arrivé au CCFD Terre Solidaire à Lourdes par le biais des pèlerinages, puisque C'est comme ça que j'ai rencontré le CCFD à Lourdes, que je connaissais un petit peu par le CCFD de mon diocèse, mais je n'avais pas les liens avec le CCFD de mon diocèse que j'ai actuellement avec le CCFD de Lourdes.
Tout au long de cette année, sur les ondes, nous allons recevoir des acteurs de la diaconie, du service du frère, donc des acteurs de la solidarité et de la fraternité du diocèse de Tarbes-Lourdes. Vous êtes agrégé en lettres classiques et avec vous, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, bien qu'on revienne sur le sens des mots. Vous savez, on est dans une société où on emploie des fois un mot pour un autre, etc. Et puis des fois, on se dit, ben non, mais les mots ont un sens. Alors, avec vous, je voudrais qu'on travaille sur le sens de ce qu'est la solidarité, la fraternité et la diaconie. Alors, la diaconie, c'est même un terme un peu difficile qu'on n'emploie pas souvent. Donc, avec vous, on va essayer de mieux entrer dans ces trois termes. Qu'est-ce qui les différencie? Alors, tout d'abord, si vous voulez bien, on va se dire... La solidarité, qu'est-ce que la solidarité ?
Oui, c'est bien de commencer par ça. C'est un mot qui me parle, évidemment, en tant que bénévole du CCFD Terre Solidaire, le mot de solidarité me parle. Alors j'ai effectué quelques recherches, à la fois dans mes souvenirs et puis dans quelques dictionnaires. Alors l'origine du mot solidarité est intéressante, ça vient du latin. Solidus, pardonnez-moi ce détour par l'étymologie, mais souvent, je pense que le détour par l'étymologie permet d'éclaircir ou de préciser le sens, parfois un petit peu imprécis, de tel ou tel mot. Alors ce mot solidus en latin, il veut dire entier, consistant, et il exprime le lien unissant entre eux les débiteurs d'une somme. Et ça me paraît une idée extrêmement intéressante parce que ça nous fait bien comprendre, enfin ça nous permet de mieux comprendre, du moins je le crois, l'esprit de la solidarité que nous devons avoir, parce que nous sommes les uns et les autres les héritiers de quelque chose que nous avons reçu et dont nous sommes collectivement responsables, les uns par rapport aux autres. Et ce mot solidarité désigne aussi, enfin exprime aussi le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe entre des personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport aux autres, ce qui induit comme conséquence la nécessité de se comporter comme si nous étions directement confrontés toujours aux problèmes des autres, sans quoi l'avenir de tous serait compromis. À l'appui de cette affirmation, je reprends volontiers ce que l'on dit fréquemment au CCFD Terre Solidaire, où on fait le lien entre ce que l'on appelle l'ici et l'ailleurs, en disant assez fréquemment, l'acte, le geste, le propos que nous tenons ici, il peut avoir des répercussions que nous ne soupçonnons pas, loin ailleurs. Ça rappelle cette fameuse histoire du battement d'ailes d'un papillon, hein, qui, dans une région, peut provoquer un typhon à l'autre bout du monde. Et je crois que cette idée de solidarité, enfin de lien nécessaire entre ici où nous sommes, hic et nunc, maintenant, et puis là-bas où sont les autres, est une idée extrêmement importante et ça éclaire la notion de solidarité.
Et du coup, j'ai envie de dire, c'est des liens solides entre les peuples.
Solidus, absolument.
Solides entre les peuples.
Voilà.
Donc la solidarité, c'est vraiment créer des liens pour toujours entre celui qui est différent de nous ou le même que nous. Ça voilà. Peut être des liens de grande proximité.
De grande proximité, oui. Et puis nous ne soupçonnons pas ni forcément ni toujours ce caractère entier, plein, solide, pour reprendre le mot que vous avez employé, entre des gens dont on peut penser que parce qu'ils vivent dans des endroits complètement différents du monde, vivent des choses complètement différentes, alors que les problèmes des hommes et des femmes, qu'ils habitent en Europe ou dans un autre coin du monde, en Amérique latine, en Asie, en Océanie ou ailleurs, finalement les problèmes sont, au-delà des différences spécifiques à chaque région, chaque coin du monde, les problèmes humains sont fondamentalement les mêmes.
Alors Jean-François, on peut vraiment dire que la solidarité permet de créer des liens forts, comme vous avez dit. Mais moi, je me souviens, j'ai l'impression, entre les années 80, 90, même dans l'Église, on parlait encore beaucoup d'œuvres de charité, de charité. J'ai l'impression que petit à petit, le terme charité a été remplacé par la solidarité. Quel sens, qu'est-ce qui différencie solidarité et charité ?
C'est une question qui est difficile, et la réponse, bien évidemment, est difficile. D'autant plus que le mot charité a été, enfin, semble-t-il, est pénalisé par ce dont on l'a investi, ce mot.
Un peu galvaudé,
oui. Et puis un peu, ce qui a conduit, me semble-t-il, à déprécier le sens de ce mot charité. Mais par charité, il me semble qu'on désigne l'action, le geste, l'attention que l'on a à l'égard de quelqu'un qui nous est cher. Et on a souvent tendance à confondre cette idée de lien avec quelqu'un qui nous est cher avec lien avec une personne qui nous est, dans une certaine mesure, inférieure par les conditions de son existence. Alors que c'est pas ça du tout. La charité, c'est bien l'attitude que nous devons avoir à l'égard de quelqu'un que nous aimons profondément, parce qu'il nous est cher.
Oui, peut-être qu'on y mettait par un temps dans la charité peut-être une connotation religieuse et solidarité une connotation laïque. C'est peut-être poussé
par quelque chose. Ça peut être ça aussi la différence,
voilà,
effectivement.
Un lien qui nous est cher, comme vous avez dit. Caritas, voilà. L'amour.
L'amour, absolument.
Alors, venons à la fraternité. Après avoir bien remémoré ce qu'était vraiment profondément la solidarité, si on passe à ce terme de fraternité, comment est-ce qu'il faut l'entendre? Quelle définition vous en donneriez?
Alors là encore, je passerai par l'étymologie, le mot latin « frater », qui veut dire « le frère ». La fraternité, c'est le lien unissant, ou du moins qui devrait unir, tous les membres d'une même famille, et plus largement, tous les membres de la famille humaine. C'est extrêmement lié à l'idée de la solidarité. Il me semble que c'est indissolublement lié, ces deux notions. L'idée de la solidarité implique, me semble-t-il, l'idée de la fraternité, et la fraternité nécessite que nous ayons une attitude de solidarité à l'égard de ceux que, étymologiquement, nous considérons ou nous devrions considérer comme nos frères. Bon, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Je me souviens d'une citation d'Alain, le philosophe Alain, qui disait « La fraternité, c'est bien, mais c'est difficile de près ». Voilà. C'est beaucoup plus facile, effectivement, de considérer que ceux que nous ne voyons jamais sont nos frères que d'agir, effectivement, en frères à l'égard d'eux, à leur égard, parce qu'ils sont nos frères et qu'il y a entre eux et nous des liens très profonds qui nous unissent et que l'on a tendance à oublier.
Merci. Et avant donc de terminer notre chronique, venons au terme de diaconique. On dit le service du frère. Alors on a une petite minute ou deux pour nous expliquer ce qu'on entend par diaconie.
Oui, c'est une notion un petit peu compliquée. Disons simplement que le mot diaconie désigne une paroisse qui a à sa tête un cardinal diacre. Étymologiquement, c'est ça, une diaconie. Bon, ça désigne toute une série d'institutions charitables qui portent secours aux nécessiteux, tout comme la fraternité, hein, les gens qui sont sans revenu, sans logement, sans avenir, sans espoir, sans ceci, sans cela. Bon, la diaconie est apparue à Rome à la fin du 7e siècle, et c'était des centres d'assistance. La plus ancienne à Rome, c'est Sainte-Marie Cosmédine, à proximité du Forum Boarium, le long du Tibre, et qui a été fondée par des Grecs orientaux. Et cette diaconie à Sainte-Marie Cosmédine organisait la distribution de subsistance, de vivres, aux citoyens indigents, à la fin du 8e et au début du 9e siècle. Beaucoup subsistent encore, d'ailleurs, et il y a eu jusqu'à 22 diaconies, dont il reste un certain nombre aujourd'hui. Alors, j'ai essayé de réfléchir un petit peu plus largement à cette histoire de diaconie, voir comment concrètement ceci est mis en œuvre, et je me suis rappelé d'avoir participé à Lourdes à un grand rassemblement qui avait été voulu par l'Église et qui s'appelait Diaconia 2013. Et j'ai regardé ce qu'impliquait, ce qui avait été dit, ce qui avait été fait, et j'ai relu attentivement la lettre d'envoi qui avait été faite à l'issue de ces 3 jours. Et j'ai trouvé des notions, des idées qui m'ont semblé extrêmement intéressantes. Alors je vais vous en donner quelques exemples. Ensemble, première recommandation, osons le changement de regard sur les plus fragiles. Ensuite, toujours ensemble, osons le changement d'attitude au sein de nos communautés pour que les plus pauvres y trouvent leur place. Troisièmement, ensemble, osons le changement de politique à l'échelon local, tout comme à l'international. Et enfin, ensemble, osons le changement dans nos modes de vie pour respecter la création où les liens humains sont premiers. Et je me suis dit ça, c'est moderne. C'était, comment dirais-je, prophétique, et c'était l'annonce de ce qui allait suivre 2 ans après, c'est-à-dire l'encyclique du pape François, Laudato Si.
Merci Jean-François pour tous ces rappels. À une prochaine fois.
Merci à vous, Anne, de m'avoir reçu.
Présence dans la cité mariale 96.
Du Pays basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance, leurs aventures dans les sites pyrénéens fameux. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Georges Sand. Fin octobre 1838, Georges Sand va revoir ses chères Pyrénées, 13 ans après le premier séjour à Cauterets, où elle était tombée amoureuse des montagnes et d'un jeune magistrat bordelais, Aurélien de Sèze. Elle a un nouvel amant, un pianiste polonais, du nom de Frédéric Chopin, qu'elle a convaincu de passer l'hiver loin de Paris, car leur liaison, jusqu'ici clandestine, est maintenant connue et l'objet de médisance. La famille du jeune Frédéric veut l'éloigner de cette écrivaine plus âgée que lui, qui se fait remarquer par ses extravagances, qui vient de divorcer et prône l'émancipation des femmes. Sur les conseils de son amie la comtesse Marliani, épouse du consul d'Espagne à Paris, le choix se porte sur les Baléares, dont le climat sera bénéfique pour la santé de Maurice, le fils de l'écrivaine, et bien sûr de Frédéric, qui souffre de tuberculose. Pour ne pas éveiller les soupçons, on décide de quitter Paris séparément. Le rendez-vous est fixé à Perpignan. Georges et ses enfants, Solange et Maurice, partent d'abord. Chopin les rejoint 4 jours plus tard. Puis la petite famille part en bateau de Port-Vendres pour Barcelone, puis Palma de Majorque, 7 novembre, et enfin la Chartreuse de Valdemossa. Mais la réputation de Georges l'a précédé sur l'île et ils sont rejetés par la population qui fait tout pour entraver leur installation. De plus, Chopin tombe malade et le piano tant attendu n'arrivera que fin janvier. Le séjour se termine brusquement avec l'aggravation de l'état de santé de Frédéric. Il faut vite regagner la France, 13 février 1839. C'est de Port-de-Vendres, en attendant le bateau pour Barcelone, que Georges Sand avait envoyé cette lettre à son amie la comtesse Marliani. Chère bonne, je quitte la France dans 2 heures. Je vous écris du bord de la mer la plus bleue, la plus pure, la plus unie. On dirait une mer de Grèce ou un lac de Suisse par le plus beau jour. Nous nous portons bien, tous. Chopin est arrivé hier soir à Perpignan, frais comme une rose et rose comme un navet. Bien portant d'ailleurs, ayant supporté héroïquement ces 4 nuits de mal-poste. Quant à nous, nous avons voyagé lentement, paisiblement et entourés à toutes les stations de nos amis qui nous ont comblés de soins. Monsieur Ferraris, sur la recommandation de Madrid, a été très aimable pour moi et m'a paru être un excellent homme, absolument dans la même position que Manuel. Repoussé à Venise et à Trieste par le gouvernement autrichien, il attend sa destitution philosophiquement, car à Perpignan, il s'ennuie à avaler sa langue. Il a gardé un très doux souvenir de votre mari et a appris de moi avec joie qu'il est heureux dans son ménage et amoureux de sa femme. Vous avez dû recevoir de mes nouvelles de Nîmes et un panier de raisins. Je n'ai rien reçu de vous et je serais inquiète si je n'avais de vos nouvelles par Chopin. Notre navigation s'annonce sous les plus heureux auspices. Comme on dit, le ciel est superbe, nous avons chaud et nous voudrions, pour être tout à fait contents de notre voyage, que vous fussiez avec nous. Adieu, cher. Mille tendresses à Mariani, poignée de main bien affectueuse à Enrico. Rappelez-moi à tous nos bons amis et donnez-leur de mes nouvelles. Je passerai 8 jours à Barcelone. À travers les mots et regards inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de Georges Sand. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées », inspirant tous mes récits.
Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, love you brought my way. You give me good and all.
sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to C. My life was torn like a windblown sand, and the rock was burned when you hit my hand. Oh, Sunny, what's so true? I really love you.
Le journal.
Le journal.
Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se retrouver en Hongrie pour parler de la guerre en Ukraine.